Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici les titres. Tuerie, viol, déplacement forcé des populations et occupation illégale des infrastructures scolaires, ce sont là les mots dont souffrent les populations du territoire d'Ango dans le Bas-Ouélé. L'alerte est de la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale. Il n'y a aucune structure appropriée ni organisation humanitaire qui intervient sur place, s'inquiète cette structure. Congo central, il n'y a pas eu d'entrée ni de sortie hier à la compagnie sucrière de Kulungongo en Banzangungu. Les travailleurs ont brûlé hier matin l'avion agricole de cette compagnie et ont barricadé tous les accès menant à l'usine. Ils réclament ainsi l'amélioration de leurs conditions salariales et sollicitent l'intervention de la présidence de la République. Et puis, vivre ensemble des communautés, c'est le projet mis en œuvre par la Commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa, cela au plateau de Bateke, théâtre actuellement de l'insécurité. Pour en parler, nous recevons Samuel Ntumba, secrétaire exécutif de cette commission. Madame, Messieurs, bonjour. La Coalition nationale pour la Cour pénale internationale dénonce des graves violations des droits de l'homme perpétrées par les groupes armés étrangers dans le territoire d'Ango, dans la province du Bas-Ouélé. Le coordonnateur national de cette organisation de défense des droits de l'homme cite le CELECA et l'UPC, Union pour la paix pour la Centrafrique, deux groupes armés de la République centrafricaine qui sont à la base des tueries, des viols, des déplacements forcés des populations et de l'occupation illégale des infrastructures scolaire. Monseigneur Pax André-Marie Kito Massimango confirme que sur place à Ango, il n'y a aucune structure appropriée ni organisation humanitaire qui intervient. On écoute le coordonnateur de la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le territoire de Ango pour le moment se trouve débordé par le mouvement des déplacés internes qui sont en train de fuir les exactions des groupes armés de la République centrafricaine et en particulier le groupe armé de CELECA et de l'IPC, l'Union pour la paix pour la Centrafrique, qui ont retrouvé leur bastion au niveau de Ango et ils sont en train de commettre des graves violations des droits de l'homme du jour au jour. Il n'y a aucun secours. Il y a également les mouvements des réfugiés qui proviennent du Soudan, envahissent le territoire de Ango et les nombre de ces réfugiés est compté à plusieurs milliers, mais sans aucune structure appropriée d'encadrement de ces réfugiés. Pour leur survie, ils sont en train de dévaster les champs des paisibles populations, de saccager l'élevage de la population, à telle enseigne que la crise humanitaire dans le territoire de Ango se trouve au sommet de toutes les crises possibles.
Dernier jour hier des épreuves du TENASOSP, test national d'orientation scolaire et professionnelle, à Bukavu, 27 élèves du complexe scolaire Myriam 1, devant passer ces épreuves, ont été désorientés par leur préfet, ce dernier ayant détourné les frais de participation de ces élèves, les a amenés dans une autre école pour passer leur test. C'est l'école qui a reçu ces élèves qui a pu alerter les autorités de l'EPST. Le préfet est en cavale pour avoir détourné les frais de participation de ces élèves. La situation a été récupérée et les enfants ont pu finalement passer leur test comme prévu. Rachel Kiesembangu nous raconte.
Ayant interpellé le promoteur de l'école Myriam 1, le préfet est en cavale actuellement, le processus de suspension de ce dernier étant en cours. Jean-Marie Moyessé, inspecteur principal provincial Sud Kivu 1.
On nous a alerté, on va découvrir que ce monsieur-là, c'était vraiment un malhonnête. Il a non seulement perçu plus que ce qui était demandé aux enfants, il leur a encore demandé 1000 francs pour la photocopie des questionnaires. Nous avons fait le nécessaire pour que les enfants reprennent leur place au sein de l'école.
Occasion pour l'IPP d'appeler les parents à la vigilance et de tirer les oreilles aux promoteurs d'école de bien choisir les gestionnaires à qui ils confient les enfants.
Je voudrais d'abord attirer l'attention des parents. Il faut savoir dans quelle école vous allez orienter les enfants. Nous avons demandé à l'inspecteur enquêteur qui était là de poursuivre l'enquête de viabilité dans cette école-là. Donc ici, je m'adresse aux gestionnaires d'école. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut confier la responsabilité d'une école.
Signalons que plusieurs cas du genre se sont produits dans des écoles des territoires de Kabaré, Kalehe et Walungu, dont les préfets ont été suspendus. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Au Maniema, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 se félicite et félicite tous les intervenants, les parents ainsi que tous les élèves pour le bon déroulement des épreuves de Tenasosp. Mokito Gaunda Serafin a fait savoir qu'aucun incident n'a été signalé dans toute sa juridiction. Florence Kiza, reportage.
Durant ces deux jours, ces élèves de la 8e année de base ont été soumis aux tests des connaissances et des psychotechniques. Bien qu'ils n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro, ces derniers font savoir que tout s'est bien passé. L'épreuve, Mokito Gaunda rassure.
Dans Maniema 1, je peux vous rassurer que tout s'est passé correctement. Il n'y a pas un incident majeur. Nous avions la situation de toutes les sous-divisions. Non, j'encourage les enfants, mais sauf qu'à un moment donné, les parents croyaient que c'était de l'aventure, mais au moment où nous parlons, ce n'est plus l'aventure. Les brevets de Tenasosp pour cette année sont logés déjà chez nous dans la province éducationnelle de Maniema.
Mais quelle est l'étape qui devra suivre ces tests de Tenasosp? Godelive Mwinda, inspectrice principale provinciale.
Il faut que toutes les copies d'examen arrivent au chef-lieu du pool et que le pool centralise les copies qui viennent des différents centres d'examen et c'est après que le processus de correction va commencer. Les parents, nous leur demandons d'être calmes, d'attendre patiemment les résultats. Les enfants qui vont réussir, ils auront leur brevet.
Rappelons que 22 798 élèves ont participé à ces tests dans la province éducationnelle Maniema 1. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pendant ce temps, à Beni, à cause de l'insécurité, certains enfants ont perdu leurs parents et vivent dans des conditions difficiles, dans des orphelinats, d'autres dans des familles d'accueil, d'autres encore vivent dans la rue, mais tous ont plaidé pour le rétablissement d'une paix durable pour que leur protection soit mieux assurée. Guylaine Kassassi a rencontré certains de ses enfants à l'orphelinat Dieu est bon au quartier Massiani dans la commune de Moulekera. Voici son reportage.
Ils sont une dizaine que nous avons rencontrés à l'orphelinat Dieu est bon ce vendredi matin devant un écran de télévision. Ils ont l'air abattus. Ils regrettent de subir les affres de la guerre et de l'insécurité. Pourtant, ils souhaiteraient vivre comme tous les autres enfants d'ailleurs en paix. Mais que signifie ce mot pour eux dans une région comme Beni? Youssouf Kombe.
À l'est du pays, nous sommes vraiment menacés par beaucoup de groupes armés. Chez nous ici à Beni, même dans mon quartier où je suis à Massiani, nous ne sommes pas à paix. Pour être égaux comme les autres, mes amis qui sont en Kinshasa, en Angola, comme un enfant africain, il faut d'abord ma protection.
Djuma Kompe a perdu ses deux parents, explique.
Nous, orphelins de massacre, menons une vie difficile. À chaque fois que nous entendons des coups de feu, nous nous souvenons de nos parents. Même si on est à l'école, on est pris de panique et le traumatisme refait surface. Et là, on ne saura plus réfléchir comme il le faut.
De son côté, Hidani Mwindo, âgé d'une dizaine d'années, plaide pour que le gouvernement rétablisse la sécurité pour permettre aux enfants de vivre normalement.
Lorsque je suis en classe, j'ai peur que ça crépite alors qu'on est en dehors de la maison. Que le gouvernement mette fin à la guerre pour nous permettre de bien vivre. À la télévision, je vois que d'autres enfants vivent bien. Ils mangent bien. Que le gouvernement nous assiste aussi en nourriture.
Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
À Kalemi, les enfants reporters de l'UNICEF ont fait un plaidoyer sur la violence vécue par l'enfant en relation avec l'environnement numérique, ce en rapport avec le thème retenu cette année pour célébrer la journée de l'enfant africain, à savoir les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Dans leur plaidoyer, les enfants reporters demandent notamment au gouvernement de protéger l'enfant face aux dangers du numérique. On écoute à ce sujet Ryan Ilunga, un enfant reporter, dans ses propos recueillis par Paulin Munanga.
Le numérique peut constituer des opportunités pour renforcer l'accès à une éducation de qualité, promouvoir le droit de l'enfant à la culture et aux loisirs. L'environnement numérique comprend aussi des risques très graves, des violations de droits de l'enfant. Les enfants sont exposés à des contenus tristes de voir comment est-ce que la vie de certains enfants est totalement détruite. Les images et vidéos qui sont diffusées dans les réseaux sociaux mesures sont à l'encontre de la protection de l'enfant. Que l'instauration des codes numériques au programme scolaire soit accompagnée d'une dotation des outils liés à la numérisation. Que le gouvernement soutienne les systèmes de tolérance zéro à toute diffusion, émission et publication des idées ou images pouvant détruire la vie des enfants sur les réseaux sociaux. Que les parents veillent sur la bonne éducation de leurs enfants, surtout avec le monde numérique auquel leur contrôle, implication et surveillance sont nécessairement demandés.
L'Union chrétienne féminine UCF-RDC, autrement connue sous le nom de IMCA, a sensibilisé hier la population du district de la Funa à Kinshasa sur l'éducation civique et électorale à travers la présentation d'une pièce de théâtre législatif. UCF-RDC interpelle les uns et les autres, notamment sur leur rôle à jouer dans le processus électoral en cours en RDC, conformément à la loi. Cette activité a réuni les représentants des différentes couches de la population, notamment la société civile et quelques décideurs politiques, l'objectif étant de les conscientiser à s'approprier ce processus afin d'aboutir aux élections crédibles et apaisées. Rosine Kokila, secrétaire générale nationale et directrice exécutive de cette structure des femmes et filles, explique au micro de Grâce Hamzati.
Nous voulons mettre ensemble les décideurs ainsi que le reste de la population autour d'une même table sous forme de théâtre dans lequel les acteurs incarnent les rôles des différentes couches de la société et nous présentent les différents maux que nous vivons, surtout en matière électorale. Alors nous voulons mettre toutes ces populations ensemble pour que nous puissions détecter ensemble quels sont les problèmes et surtout quelles sont les solutions à apporter, parce que les élections c'est une affaire de tous et prendre la population de manière séparée n'arrange pas les choses. Il suffit de les mettre ensemble et qu'ils visualisent eux-mêmes ce qu'ils font. Les défis à relever en matière des élections sont notamment l'inconscience de la population. Je veux dire, les gens semblent distraits. Ils ne se rendent pas compte que le processus électoral a déjà démarré. Et même les candidats ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts face à la loi. Ils ne sont pas prêts face à toutes les dispositions qui encadrent cette loi-là. Et cela fait que, après les élections, lors de la proclamation, qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne croient pas aux structures qui organisent les élections, en l'occurrence la CENI, et qui interprètent mal certaines choses qu'ils auraient dû, n'est-ce pas, avoir connaissance bien avant. Et c'est du côté et des décideurs et de la population.
Notons que cette activité rentre dans le cadre du projet de contribution au processus électoral et au renforcement de la culture démocratique en RDC. Elle devra s'étendre dans les autres districts de la capitale jusqu'au mois de décembre prochain, affirment les organisateurs. Dans l'actualité, sachez aussi que l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OPDAD, célèbre son 20e anniversaire ce samedi 17 juin à Kinshasa. Selon un communiqué de presse parvenu à Radio Kapi, il sera également question pour cette structure de dresser le bilan des deux décennies d'action au profit des citoyens africains les plus vulnérables et d'ancrer ses ambitions pour les 20 prochaines années. Selon ce communiqué, cet événement qualifié d'historique permettra de souligner le rôle catalyseur du changement qu'a joué et continuera de jouer l'OPDAD sur le continent et au-delà pour favoriser l'accès aux services essentiels et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Madame Denise Niaké-Rutshisekedi, vice-présidente de cette structure et première dame de la RDC, a souligné qu'à l'échelle du continent, les obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes sont encore trop importants. Il est donc urgent d'agir. Direction la province du Congo central. Il n'y a pas eu d'entrée ni de sortie hier à la compagnie sucrière de Kwilungongo, située dans la cité du même nom, dans le territoire de Mbanzangungu. Les travailleurs, qui revendiquent l'amélioration des conditions salariales, ont brûlé hier matin l'avion agricole de la compagnie sucrière et ont barricadé tous les accès menant à l'usine. Ces travailleurs, qui tiennent coûte que coûte au respect du SMIG et la signature des contrats de travail, sollicitent l'implication de la présidence de la République pour avoir des réponses positives à leurs revendications. Retour sur ce qui s'est passé hier avec Nana Pleurish Mambou.
Ils étaient en colère ce vendredi avant midi pour manifester leur mécontentement. Les grévistes ont barricadé tous les accès menant à l'usine, paralysant ainsi les activités de production du sucre. ils ont aussi endommagé l'avion agricole appartenant à la société. À travers ces actions, ces travailleurs dénoncent la modicité de leurs primes, les sous-paiements ainsi que les mauvaises conditions de travail. Ils accusent l'employeur de ne pas respecter les salaires minimum interprofessionnels garantis, fixés à 10$ la journée. Ils affirment ne toucher que 3$ par jour. Ils dénoncent également les comportements de leurs délégués syndicaux qui, toujours d'après eux, ont perdu tout pouvoir face à l'employeur qui leur réservait des pots de vin. Pour désamorcer la grève, ces travailleurs revendiquent non seulement le respect du SMIG, mais aussi l'octroi d'un contrat de travail pour garantir leur sécurité sociale et professionnelle. Signalons qu'il y a quelques jours, le ministre du Travail et Prévoyance sociale a visité cette compagnie. Une présence que les travailleurs de la sucrière de Kulungongo ont trouvée inutile, parce que selon eux, le ministre ne s'est même pas donné la peine de les rencontrer. Contacté, le chef du personnel de la compagnie sucrière de Kulungongo, Joseph Kabengele, promet de réagir après des réunions qui se tiennent entre l'employeur, les délégués syndicaux et les autorités locales. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Le Mali a réclamé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU le retrait sans délai de la mission des Nations Unies sur son territoire, la MINUSMA, qui, selon son chef, devient ainsi presque impossible. Le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, devant les membres du Conseil. Ces derniers doivent se prononcer le 29 juin en cours sur un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix, mandat qui expire à la fin de ce mois.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Samuel Ntumba, secrétaire exécutif de la Commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa. Cette commission met en œuvre un projet dénommé « Vivre ensemble des communautés », ce au plateau de Bateke, théâtre actuellement de l'insécurité. Samuel Ntumba parle des actions pacifiques menées par la Commission Justice et Paix et de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Samuel Ntumba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Il y a une semaine, la Commission Justice et Paix a tenu une conférence de presse sur la situation sécuritaire au plateau de Bateke. Quelle est l'évolution de la situation actuellement sur le terrain?
Actuellement sur le terrain, la situation est restée la même parce qu'il n'y a pas assez d'évolution, surtout sur les attentes des communautés. Les militaires et les policiers sont toujours postés là où ils étaient. Il n'y a pas une avance. Certaines communautés qui sont à l'intérieur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après notre alerte, ils ne sont toujours pas sécurisés par l'armée. L'armée continue à maintenir ses barrières là où elles étaient. Ce qui voudrait dire que certains villages demeurent toujours dans l'insécurité. Puis nous avions demandé à ce que l'armée puisse avancer ces barrières. Il ne l'a pas fait jusque-là. Ils sont là, au plateau, mais il n'y a aucune avancée, il n'y a aucune action pour neutraliser les bases de Mobondo pendant qu'ils sont connus. Après qu'on ait décapité les chefs coutumiers de Pongwene, ils ont essayé de poursuivre les Mobondo dans leur version. Ils ont eu quand même à neutraliser quelques Mobondo, à tuer quelques-uns, et puis ils sont retournés sur la grande route.
La Commission Justice et Paix a lancé, avec l'appui de la Caritas Internationale Belgique, un projet sur le vivre ensemble au niveau du plateau de Bateke. On va expliquer un peu ce projet et quelles sont les motivations.
Pendant que nous écrivions ces projets, nous pensions renforcer la sensibilisation pour qu'il y ait la cohabitation pacifique entre les communautés de plusieurs cultures qui vivent ensemble dans les plateaux. Alors quand l'insécurité est arrivé au niveau du plateau, nous avions eu à suspendre certaines activités. En fait, le projet était axé sur trois genres d'actes. Il y avait la sensibilisation de la communauté sur la cohabitation pacifique, les actions de plaidoyer que nous devrions mener auprès des obligataires pour le renforcement de la sécurité dans plusieurs villages qui étaient délaissés. Et puis, on devrions mettre en place un système de collecte de veilleurs dans les différents villages pour collecter les informations en rapport avec la situation sécuritaire et même en rapport avec la situation humanitaire. Au jour d'aujourd'hui, la sensibilisation ne peut plus être menée parce que il n'y a pas une stabilité au niveau du plateau, mais ce sont les deux autres axes qui sont opérationnels, c'est-à-dire notre système de veille qui continuent à fonctionner avec les veillères endogènes et puis les plaidoyers qui nous...
Et justement, les plaidoyers, qu'est-ce que vous avez fait concrètement auprès de qui vous êtes adressé pour le rétablissement de la paix dans le plateau?
Le plaidoyer, nous l'avions commencé en introduisant un cahier des charges auprès du VPM de l'Intérieur, ministre Asselo. Puis nous avions réservé copie au ministre de la Défense. Nous avions envoyé un cahier des charges et une nette mémoire au ministre de l'Intérieur provincial et au gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous avions partagé un plan de sécurisation du plateau de Bateke qui devait être mis en place par le gouvernement pour espérer imposer la sécurité. Et puis nous avions essayé d'atteindre certains représentants, les élus provinciaux, même s'ils ont envoyé les militaires au plateau, mais ces militaires font quoi? Ils font rien.
En d'autres termes, vous n'avez pas prévu l'aspect purement la prise en charge des déplacés qui affluent maintenant sur le plateau de Bateke?
Non. Ces projets Vivre Ensemble n'avaient pas pris en compte cet aspect-là.
Quelles sont les conséquences de ces conflits au niveau du plateau de Bateke et sur le plan vraiment socio-économique?
Sur le plan socio-économique ou social, les conséquences sont désastreuses. Désastreuses à tel point que ces communautés qui vivent au plateau vivent dans la souffrance la plus noire. Toutes les fermes dans les zones où les villages occupés sont abandonnés, les fermiers aujourd'hui sont en train de pleurer. La situation économique est devenue intenable au niveau du plateau de Bateke. La population souffre.
Que faire pour arrêter ce cycle de violence au niveau du plateau de Bateke et aussi faire de sorte que cette crise n'atteigne pas la capitale qui est proche du plateau de Bateke?
Oui, mais c'est justement ce que nous avions demandé dans nos différents plaidoyers, c'est de renforcer les équipes militaires pour assurer la sécurité des personnes. En cas les militaires ne font rien, ce cycle ne va pas s'arrêter. Si le gouvernement prend la décision de mettre les moyens pour mettre en mal ce groupe des assaillants Mobondo, je crois que ce cycle va s'arrêter.
Monsieur Toumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le secrétaire exécutif de la Commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa répondait aux questions de Jean-Pierre Elali Koko. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.